Radio Royan Vercors vous propose aujourd'hui une visite sonore au musée départemental de la résistance du Vercors à Vassieux. Première partie, autour de l'exposition temporaire Se relever, Vercors, août 44, début 47. C'est Pierre-Louis Fillet, historien et directeur du musée, qui nous en parle.
Eh bien bonjour, donc l'exposition qu'on propose, c'est l'exposition qui s'appelle Se relever, Vercors, août 44, début 1947. Donc c'est la période de la sortie immédiate de la guerre que l'on propose de traiter à l'échelle du Vercors afin de peut-être mieux faire connaître cette période assez méconnue et pourtant extrêmement importante de l'histoire du massif.
Et une des singularités du musée de la résistance de Vassieux, c'est de travailler énormément à partir d'archives. C'est le contenu essentiel qu'on va pouvoir retrouver. Et à chaque fois, il y a toujours un travail assez fin. Il y a des nouvelles archives à découvrir. Donc, on parle d'archives de textes, de photos et aussi de vidéos. On va en parler tout au long de cette visite sonore, mais c'est vraiment des pièces qui parfois sortent pour la première fois aussi. Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur la manière dont vous avez pu accéder à ces archives et raconter cette histoire, créer une exposition à partir d'archives?
Alors c'est vrai que le profil de l'équipe, où nous sommes plusieurs historiens, fait que nous avons un goût naturel et assez évident pour les archives. Mais effectivement, si on souhaite organiser des expositions temporaires, c'est à la fois pour renouveler les contenus et donner envie, notamment aux locaux, de revenir découvrir le musée. Mais c'est aussi parce que chaque exposition temporaire, c'est l'occasion d'approfondir une thématique, de découvrir de nouveaux fonds d'archives, de travailler sur la presse, découvrir de l'iconographie, de découvrir des séquences filmées, et qui, pour certaines, sont totalement nouvelles et inédites. Donc une exposition temporaire, c'est aussi l'occasion de remettre sur la table des sujets qu'on n'avait absolument jamais traités et des archives que nous n'avions jamais exploitées.
Et donc l'exposition commence en août 44, donc se relever en août 44, qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi ce point de départ? Donc on rentre dans l'exposition par ce point temporel-là.
Alors août 44, il faut bien avoir en tête que le massif est complètement dévasté. Il ne reste plus rien de Vassieux et plus grand-chose de la chapelle. Beaucoup de hameaux dans le Vercors, mais sur le Piémont également, sont fortement endommagés, hein, si on pense aux bombardements qui ont lieu dans le Royan par exemple. Et donc, août 44, ceux qui arrivent à Vassieux, la première urgence, c'est gérer les morts. Il y a presque 200 personnes qui ont perdu la vie à Vassieux. Les morts sont restés à l'air libre pendant 15 jours, 3 semaines. Donc, une première urgence, c'est d'aller enterrer ces morts pour des raisons sanitaires évidentes. Les équipes de la Croix-Rouge qui arrivent à Vassieux en août 44 témoignent toutes de cette odeur pestilentielle qui avait à l'époque à Vassieux. Donc vraiment un contexte particulièrement compliqué. Donc à la fois l'urgence d'enterrer ces corps, mais aussi, malgré tout, de les décrire, de les photographier souvent, parce que la plupart de ces corps, notamment des résistants, ne peuvent pas être identifiés sur le moment. Donc il faut impérativement garder des traces précises pour pouvoir, a posteriori, remettre un nom sur ces dépouilles. Et dans les semaines qui suivent, il y a un phénomène qui est assez frappant, c'est le fait que les journaux locaux regorgent de descriptions de corps. Voilà, on a par exemple la liste de tous les corps inconnus retrouvés à Vassieux. Donc on le décrit précisément, la taille, les habits, parfois quelques initiales brodées sur des vêtements. Donc il y a effectivement ces descriptions de corps d'un côté et de l'autre, dans les mêmes journaux parfois, des familles qui lancent des appels à personnes disparues. Et c'est vrai que c'est une période qu'on a un peu oubliée, mais voilà, c'est quand même particulièrement pesant. Donc bien sûr qu'on commence par ça dans l'exposition, c'est peut-être une thématique un peu lourde, mais malgré tout, c'est aussi l'idée de se remettre dans ce contexte des premiers jours après les combats. Et effectivement, la préoccupation des morts est essentielle.
Et donc, juste après les morts, il y a une deuxième étape de la visite. On enchaîne avec les vivants, évidemment, et notamment juste après les enfants. Donc ça, c'est qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là pour les vivants, pour ceux qui restent?
Alors effectivement, si on reprend encore une fois l'exemple du village de Vassieux, il y a les vivants, c'est-à-dire tous ceux qui ont survécu, qui se retrouvent face à un village complètement dévasté. Donc il va falloir revenir rapidement à Vassieux pour plusieurs raisons, notamment parce qu'il faut rapidement faire l'état de tout ce qui a été détruit pour reconstruire et très tôt C'est la préoccupation permanente des habitants et des élus. Donc, tout un travail extrêmement fastidieux et long qui est conduit par les élus locaux à l'époque, qui sont les interlocuteurs entre les habitants et les administrations. Il faut bien se repérer des villages dans lesquels il ne reste absolument plus rien. Il faut attendre 45 pour que l'électricité et que les lignes téléphoniques soient rétablies à Vassieux. Donc c'est vraiment une période d'extrême dénuement, mais malgré tout une urgence. Donc dans cette urgence-là, pour vivre dans des conditions qui soient acceptables, on construit par exemple des baraquements. Et la particularité, effectivement, c'est qu'à Vassieux notamment, les enfants, dans les premières semaines, dans les premiers mois qui suivent la fin des combats, un certain nombre d'entre eux ne vont pas être ramenés à Vassieux et vont trouver refuge pendant quelques semaines dans les villages de la région, notamment à Villard-de-Lans, qui a un important parc hôtelier qui peut accueillir des enfants. Donc il y a effectivement les enfants qui provisoirement partent, mais il y a aussi ceux qui restent, parce qu'effectivement, si les familles restent à Vassieux, certaines font le choix de garder auprès d'eux leurs enfants. Et donc on s'intéresse à ces enfants qui vont vivre finalement la fin de l'année 44 dans ce village dévasté. Et on évoque par exemple l'institutrice Jeanne Barbier, qui était en poste à Vassieux depuis 37, et qui en 1944 décide de conserver son poste à Vassieux, et qui témoigne, dans un ouvrage qu'elle a publié après-guerre, de ses premières semaines et de l'école de Vassieux qu'elle réouvre en décembre 44 avec 5 enfants. Elle explique comment est-ce que les enfants sont allés chercher dans les vestiges de l'école un ou deux bureaux pour pouvoir reprendre une classe. Donc c'est une période extrêmement touchante où on voit voilà, ces enfants confrontés au dénuement le plus total, qui malgré tout reprennent un semblant de vie dans le village de Vassieux. Village de Vassieux et village de la Chapelle qui restent des villages totalement dévastés. Et les drames des combats durent quelques semaines, quelques mois après la fin des combats. Et on évoque notamment ce qui se passe à la Chapelle en août 1945, où 5 enfants des enfants de 7 à 15 ans qui jouent autour d'une grenade qu'ils ont retrouvée, perdent la vie lors de l'explosion de cet engin. Donc un an après, le Vercors pleure encore ses enfants. Et puis autre dimension, toujours concernant les enfants, qu'on a également voulu mettre en avant, c'est la dimension psychologique. Bien sûr, en 1945, il n'existe absolument rien s'agissant de la prise en charge psychologique du traumatisme que les enfants ont vécu. Et cette période pour les enfants, c'est le traumatisme d'un côté, c'est l'insouciance de l'autre. Jeanne Barbier, l'institutrice, explique comment est-ce qu'elle va essayer de faire témoigner les enfants pour leur faire sortir, leur faire exprimer ce qu'ils ont pu vivre quelques semaines auparavant. Et il y a un document qui est très intéressant et auquel on consacre une partie de l'exposition, c'est la Revue Enfantine. Alors, Revue Enfantine, c'est une revue nationale qui avait été fondée par les époux Freinet, hein, les instituteurs célèbres qui ont donné leur nom à une pédagogie. Et les époux Freinet avaient donc fondé, durant l'entre-deux-guerres, la Revue Enfantine, qui donnait la parole à des enfants de toute la France, lesquels enfants témoignaient soit en dessinant, soit en écrivant. Et donc le numéro de 1947, le numéro 123, est consacré au Vercors. Donc il y a une dizaine de témoignages d'enfants qui avaient 8-10 ans durant les combats, qui soit écrivent ce qu'ils ont vécu, soit dessinent ce qu'ils ont vu. Donc un document extrêmement poignant, finalement, qui est une forme de... pour les enfants, d'expression des traumatismes qu'ils ont pu vivre. Certains de ces enfants sont aujourd'hui personnes âgées encore en vie, donc ça rajoute encore une dimension particulièrement émouvante à ce document.
Et c'est un document qu'on peut découvrir pendant l'exposition, puisque vous avez numérisé en bonne qualité les pages, et c'est vrai que de voir ces dessins et de pouvoir s'attarder pour lire ces textes, c'est quelque chose d'assez touchant. Et dans ce relevé, donc ensuite on continue, c'est aussi reconstruire une architecture, peut-être une vie paysanne, des objets aussi, bricoler avec ce qu'on a. Et donc l'exposition, elle est augmentée de certains objets que vous allez présenter. Est-ce que tu veux nous parler de certaines de ces formes de bricolage avec ce qu'on a au sortir de cette guerre ?
Alors oui, de manière générale, l'homme à la montagne a toujours été dans l'obligation d'être plutôt... malléable et de faire preuve d'une grande capacité d'adaptation. Et c'est ce dont témoignent les objets que tu évoques, c'est-à-dire qu'on a deux objets un peu emblématiques. Il y a des objets qui ont été confectionnés à partir du matériau de l'été 44, soit des carcasses de planeurs allemandes, puisque les planeurs allemands sont arrivés à Vassieux et ne n'en sont pas repartis, hein, puisque c'était là leur destination. Et donc, des pièces métalliques sont récupérées pour confectionner, par exemple, une échelle que l'on montre dans l'exposition, ou pour confectionner également une petite charrette à bras. Deuxième matériau qui va être utilisé, la toile de parachute, puisque le 14 juillet 44, Vassieux connaît un parachutage massif. Et cette étoffe reste sur place. Et dans les semaines, dans les mois qui suivent, cette étoffe est récupérée. Et on a un certain nombre des chaussettes, des chemisiers, des robes de baptême qui ont toutes été confectionnées en toile de parachute par les couturières des villages. Et ce qui donne effectivement une dimension particulièrement touchante à ces objets que l'on présente pour l'exposition.
Et donc voilà, tout ça, ce sera à découvrir pendant cette visite d'exposition. Et il y a, quand on continue notre cheminement dans la salle d'exposition, il y a aussi toute une partie sur les élections. Ça, on en parle peut-être un peu moins aussi généralement dans les années qui suivent la guerre. Donc des élections locales, cantonales, tu me disais. Qu'est-ce qui se passe localement dans cette étape-là?
Alors c'est une période qui est extrêmement intéressante parce que, d'une part, les Français n'ont plus été appelés aux urnes depuis 1937. Donc, ça fait presque 10 ans que les Français n'ont pas voté. Donc il va falloir, notamment à Vassieux, reconstituer des listes électorales avec la nouveauté de ce scrutin, c'est le droit de vote des femmes. Voilà. Les élections municipales de 1945, ce sont les premières élections au cours desquelles les femmes ont le droit de venir voter. Élections municipales qui sont particulièrement intéressantes dans le Vercors, d'une part parce qu'on a pu travailler sur les bulletins nuls, c'est-à-dire tous les bulletins injurieux qui sont à l'époque déjà transmis à la préfecture, qui ont été archivés, auxquels j'ai pu avoir accès, et qui disent un peu l'état d'esprit de l'époque. Il y a un certain nombre de bulletins sur lesquels on retrouve des mentions aux fusillés et aux exécutés de 44, dont on considère qu'on les a un peu trop vite oubliés. Et puis il y a également littéralement des règlements de compte. Il y a des noms qui sont barrés avec des croix gammées, avec des inscriptions comme salopards sur certains noms, qui témoignent et qui disent quand même quelque chose de ces mois qui suivent les combats. Étant entendu aussi qu'un certain nombre d'anciens résistants sont candidats aux élections locales. L'exemple de celui qui réussit bien, on en reparlera, c'est Benjamin Malaussanne, qui est désigné maire par le comité départemental de libération, maire de Saint-Jean-Royan, dès le mois de septembre 1944, et qui est très largement, triomphalement réélu en avril 1945. Dans le Vercors, les choses sont beaucoup plus complexes pour les anciens résistants, puisque beaucoup d'entre eux sont battus, ou parfois très mal élus, et des figures emblématiques, parleront sans doute comme Fabien Rey, dit Marseille, qui était un braconnier qui a joué un rôle important dans le maquis. Il est sèchement battu aux élections municipales de 1945. Donc il y a quand même un rapport à la résistance qui est quand même un peu ambivalent, et les grands noms de la résistance du Vercors sont assez rarement élus. Et en tout cas, s'ils le sont, ils le sont souvent de manière extrêmement modeste. Autre élément tout à fait intéressant dans ces élections municipales de 1945, c'est ce qui se passe à La Chapelle. La Chapelle en Vercors, trois listes s'affrontent, trois listes de 12 personnes. Et sur ces trois listes, deux listes sont intégralement composées de femmes. Ce qui fait dire que 70% des candidats aux élections municipales de La Chapelle en 1945 sont des femmes. Donc deux listes intégralement composées de femmes, une troisième liste avec 11 hommes et une femme. C'est cette liste-là qui sera élue. Malheureusement, la liste des femmes, aucune des deux listes des femmes n'aura de candidate élue. Une femme sera néanmoins élue donc sur cette troisième liste, Céleste Revol, alors qu'elle a aussi un profil intéressant, puisque Céleste Revol, c'est la mère de Jeanne Barbier, dont nous parlions précédemment, Jeanne Barbier qui était l'institutrice de Vassieux, et Jeanne Revol était elle-même une ancienne institutrice à la retraite, qui monte à Vassieux en décembre 44, aider sa fille à remettre en place une classe. Et Céleste Revol, qui était veuve de guerre, son mari était mort pendant la Première Guerre mondiale, et à l'époque, évidemment, le corps du mari était resté sur le front. Et comme tous les Français à l'époque, un attachement très fort au monument aux morts, en ce qui symbolisait aussi le souvenir de ce mari disparu. J'évoque ça parce que Céleste Revol, c'est la première à poser le premier acte de désobéissance dans le Vercors en novembre 1940. Novembre 1940, les commémorations du 11 novembre sont formellement interdites en France. Et ce que fait Céleste Revol, elle ne se démonte pas. Elle va aller fleurir le monument aux morts. Elle va aller déposer au pied du monument aux morts une gerbe à la mémoire donc des morts de la guerre de 14-18 et en l'occurrence de son mari. Et ce qui est intéressant, on considère vraiment que c'est le premier acte de désobéissance dans le Vercors. Ce qui est intéressant, c'est que les gendarmes avaient reçu l'ordre de de veiller à ce que personne ne se rassemble au pied des monuments. Les gendarmes voient Céleste Revol venir déposer sa gerbe, n'osent évidemment pas intervenir, la laissent tranquillement déposer sa gerbe et puis vont ensuite discrètement la retirer. Voilà, ce qui est pas sans rappeler le rôle important que la gendarmerie de la Chapelle jouera plus tard dans le maquis du Vercors. Bon, je digresse un peu, mais voilà, la seule et la première femme élue au sein du conseil municipal de la Chapelle, c'est donc Céleste Revol, c'est en avril 1945. À noter également que deux femmes seront également élues conseillères municipales à Saint-Jean-en-Royans sur la liste de Benjamin Malaussanne.
Et justement, on peut peut-être rapidement évoquer cette figure de Benjamin Malaussanne, puisqu'il y a pas mal d'archives qui sont issues de ses fonds, qui ont été transmis ensuite par sa famille. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette figure-là, de ce qu'il représente pendant cette période de l'après-guerre?
Alors, Benjamin Malaussanne, c'est l'instituteur de Roche-Chinard qui est démis de ses fonctions, enfin qui est mis à la retraite d'office par le régime de Vichy et qui joue très rapidement un rôle important dans l'organisation du Vercors résistant. C'est lui qui prend en charge, par exemple, la création du camp numéro 6 installé sur les hauteurs du village de Vassieux. Et c'est lui qui, dans cette période un peu d'euphorie que connaît le massif en juin et juillet 44, il y a le chef civil du Vercors qui s'appelle Eugène Chavant et qui est flanqué de deux adjoints. Et l'adjoint qui va avoir en responsabilité la zone sud du massif, c'est Benjamin Malaussanne. Benjamin Malaussanne qui est donc désigné à la Libération comme maire de Saint-Jean-en-Royans, qui va être élu, puisque nous évoquions tout à l'heure les élections cantonales, il va être élu dès le mois d'octobre 1945 conseiller général du canton de Saint-Jean-en-Royans. Et Benjamin Malaussanne va également jouer un rôle très important dans la reconstruction du massif, puisqu'il va être désigné par le gouvernement comme le référent dans la partie Royan-Vercors-Dromoise, le référent pour la reconstruction des villages. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que la famille de Benjamin Malaussanne a remis au musée, il y a quelques années de cela, un certain nombre d'archives personnelles, et nous avons beaucoup exploité les archives de ce fonds Malaussanne pour justement donner à voir comment le Vercors a vécu cette période de fin de guerre, avant même la reconstruction, le dénuement total dans lequel vivent les habitants, puisque Malaussanne fait régulièrement des rapports sur la situation de ces villages. Et il y a énormément de correspondances entre Malaussanne et puis les maires du Vercors, les autorités extérieures. Donc Malaussanne, c'est vraiment un nom qui a beaucoup compté pendant l'épisode du Vercors résistant, mais également durant la période de reconstruction. Et le fonds Malaussanne nous permet de découvrir, par exemple, l'ampleur de la solidarité qui s'exprime en faveur du Vercors. Partout en Drôme, dès 44-45, il y a énormément de campagnes, de collectes, d'événements qui sont organisés pour lever des fonds, lesquels fonds sont ensuite transmis, évidemment, aux habitants du Vercors. Ça va du comité local de libération de Bézaille, à l'association de la boule d'Ivoise de Die, à la section locale du Parti communiste de Vinsobres. Enfin, vraiment une mobilisation tous azimuts en faveur des mobilisés du Vercors. Et Malaussanne est au cœur de la reconstruction, mais également de l'organisation de cette solidarité en faveur des villages sinistrés du Vercors.
Ouais, c'est une partie de l'exposition, la solidarité qui se met en place, et notamment internationale, parce qu'en fait, elle n'est pas que locale, ça fait aussi écho à d'autres pays, et notamment en Suisse. Il y a toute une partie qui est consacrée à cette solidarité suisse.
Alors exactement, là, on a eu la chance de travailler avec deux jeunes chercheurs, alors qui ont des liens très forts avec le Vercors, mais qui vivent en Suisse, et qui ont donc pu travailler sur les archives fédérales suisses. Et donc, nous évoquons le don suisse, qui a quand même été une particularité extrêmement importante de cette période. Comment est-ce que les choses démarrent? automne 44, une équipe de journalistes suisses sillonne le sud-est de la France, et notamment le Vercors, et ils découvrent épouvantés tout ce qui s'y est passé quelques semaines plus tôt. Ils rentrent en Suisse et ils publient le premier ouvrage traitant du Vercors. Le livre s'appelle « Le livre noir du Vercors ». Donc c'est un récit de ce qu'ils y ont vu, des témoignages qu'ils ont pu recueillir, et également avec un certain nombre de photographies. Le livre est publié en France, en français et en allemand, et ça va donc donner lieu, enfin, c'est le point de départ d'une vague de solidarité helvétique en faveur, donc, d'une manière générale, de l'Europe dévastée, mais plus spécifiquement du massif du Vercors. Donc, voilà, énormément de collectes qui vont être organisées. Donc, il y a de l'argent qui arrive évidemment dans le Vercors, mais également des dons matériels. Et on montre dans l'exposition notamment des caisses à outils flanquées de la croix suisse, mais également des vaches. Voilà, il y a des vaches qui vont être acheminées dans le Vercors, parce que ce qu'on oublie aussi souvent, c'est que lorsque les Allemands ont quitté le massif, bon nombre de bêtes, de têtes de bétail avaient été exécutées, et celles qui étaient encore en vie ont souvent été emmenées. Il y a eu de longs cortèges de bestiaux qui ont traversé les villages quand les Allemands ont quitté le massif. Donc il faut du bétail dans le Vercors, et donc les Suisses fournissent des têtes de bétail. Autre élément important, les tracteurs. Il y a 5 ou 6 tracteurs qui rejoignent également le Vercors pour aider les paysans à reprendre rapidement les travaux agricoles. Donc oui, il y a un focus important qui est apporté sur le don suisse, notamment parce que tu évoquais tout à l'heure le fait qu'on a découvert un certain nombre d'archives. Il y a des archives filmées qui ont été produites. Et il y a un reportage qui a été diffusé en 1946 dans lequel on voit voilà la réalité de ce don suisse dans le Vercors. Et donc le film fait partie des choses que vous pourrez découvrir dans le cadre de l'exposition.
Et donc là, on parle vraiment d'une reconstruction à chaud. Comment est-ce qu'on se relève de tous ces événements sur toutes ces dimensions? Donc à la fois quand on est enfant, comment est-ce qu'on gère les morts? Comment est-ce qu'on bidouille des petits objets avec ce qu'on peut récupérer? Mais il y a aussi un autre pan qui vient un peu clôturer l'exposition, c'est les premières visites mémorielles qui vont venir assez vite aussi à la fin de la guerre, avec voilà des personnes de Romans qui montent, c'est presque des pèlerinages en fait qui vont s'organiser, et je sais pas si on peut parler de tourisme mémoriel, mais voilà, ça commence à arriver assez tôt. Ça fait aussi écho à d'autres histoires. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots de cette étape là
Alors effectivement, c'est aussi une dimension qui est extrêmement intéressante et importante à mesurer. On connaît aujourd'hui le Vercors et on connaît la place du tourisme mémoriel dans le Vercors actuellement. Hein, le musée et le mémorial en sont de bonnes incarnations. Ce dont on se rend compte, c'est que cet intérêt pour le Vercors et pour les drames du Vercors, elle suit la fin des combats. Dès le début de l'année 1945, il y a des personnes qui viennent de toute la région, alors à vélo ou à pied, parfois dans des camions, visiter les villages du Vercors, se rendre compte par eux-mêmes dans ces villages complètement dévastés, les ruines encore fumantes. Il y a énormément de personnes qui montent dans le massif. Et très rapidement, dès 1946, on organise les premiers circuits touristiques pour aller découvrir donc les ruines du Vercors dévastées. Il y a des délégations, on va par exemple retrouver un article de journal qui évoquait la visite d'une délégation d'étudiants libanais qui étaient venus en France et qui pour eux devaient impérativement visiter le Vercors qui était l'incarnation donc de la résistance et des maquis. Donc voilà, ces pèlerinages, on n'est pas vraiment dans le tourisme mémoriel, mais c'est une forme très spontanée de pèlerinage, eh bien, prennent corps dès les premiers mois de l'année 1945, portée, il est vrai, par la très forte notoriété qu'acquiert le maquis du Vercors dès la fin de la guerre. On commence l'exposition, le tout premier panneau, c'est la une des Allobroges et la une du Travailleur Alpin, qui sont deux journaux quotidiens de la région, et qui, dès la fin d'août 1944 et en septembre 1944, publient des témoignages sur les drames du Vercors. Donc très tôt, le Vercors acquiert une très forte notoriété, et ce tourisme de pèlerinage, il est bien porté par cette notoriété du Vercors résistant. Et dans les étapes qui témoignent de la montée en puissance de la notoriété du Vercors, On a évoqué bien sûr la publication des Suisses et l'organisation du don suisse, mais il y a aussi ces cérémonies commémoratives qui sont organisées très tôt. La plus importante d'entre elles est organisée le 5 août 1945, date à laquelle le ministre Georges Bidault vient dans le Vercors et remet donc à la commune de Vassieux la Croix de la Libération, le prestigieux Ordre de la Libération qui avait été créé par le général de Gaulle pendant la guerre, un ordre très sélect, 5 communes seulement ont été admises dans l'Ordre de la Libération, donc Vassieux, l'île de Sein, Paris, Grenoble et Nantes. Et donc Vassieux, au titre de son rôle héroïque et tragique durant l'aventure du Vercors résistant, est admis dans l'Ordre de la Libération. Donc voilà, ça fait partie aussi des éléments qui expliquent la notoriété qu'acquiert le Vercors. Et finalement, dès 1946, les cérémonies commémoratives qu'on connaît aujourd'hui, on se rend compte que les principaux jalons ont été posés moins d'un an après la fin de la guerre. Donc la mémoire du Vercors s'ancre bien sûr donc à travers ces cérémonies commémoratives. Elle s'ancre aussi avec la création de l'association des pionniers du Vercors, hein, qui rassemble les anciens pionniers du Vercors, enfin les anciens combattants du Vercors, dans une dimension également presque sociale. Il faut aussi venir en aide aux familles des personnes qui ont perdu la vie. Et puis le Vercors résistant s'ancre également dans le paysage physiquement, puisque très tôt sont installés et inaugurés des cimetières, différentes plaques et monuments à la mémoire des combattants de l'été 1944. Et on termine l'exposition par une photo de l'inauguration de la nécropole de Saint-Nizier en 1947, laquelle nécropole de Saint-Nizier est inaugurée par le ministre des Anciens Combattants, qui était à l'époque François Mitterrand, qui viendra plus tard évidemment président de la République. Donc voilà, un petit clin d'œil à la grande histoire à travers le cas de Saint-Nizier du Mouchrotte.
Et donc ça, c'est la fin de l'exposition. Donc tout ça, on le découvre avec des textes, avec des fragments de presse, avec des photos, quelques objets et un film. Et juste pour conclure et pour finir, interroger ce tourisme mémoriel aujourd'hui, c'est aussi une importance. Votre collègue me disait tout à l'heure que le musée de la Résistance a de très belles fréquentations. Donc aujourd'hui encore, ce tourisme mémoriel, il est important. Est-ce que tu pourrais nous en parler est-ce que tu as des échos de visiteurs? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Qu'est-ce qu'ils attendent en venant au musée de la Résistance de Vassieux en particulier?
Alors, ce qui a beaucoup évolué, c'est que ce qui a porté le tourisme mémoriel dans les années 70, c'était souvent d'anciens résistants qui avaient eux-mêmes vécu cette période. Le musée avait été créé pour faire en sorte que ce souvenir ne s'oublie pas. Et ce tourisme, cette fréquentation était vraiment portée par les anciens eux-mêmes. Aujourd'hui, le musée et le mémorial ont dû complètement évoluer parce que les témoins ont disparu. Et donc aujourd'hui, la fréquentation du musée, elle est à la fois le fait de scolaires. On a quasiment entre 20 et 25% de visiteurs qui sont des scolaires, notamment des Drômois, hein, qui viennent découvrir dans le cadre de leur cursus l'histoire du Vercors résistant pour traiter plus largement des problématiques liées à la Seconde Guerre mondiale notamment. Et puis le tourisme mémoriel, c'est aussi encore beaucoup de locaux. On se rend compte qu'il y a beaucoup d'Isérois, de Drômois surtout, qui viennent régulièrement, notamment les week-ends, mais ma foi, découvrir le Vercors, parce que dans l'imaginaire des Drômois, le Vercors, ça reste quand même un lieu, alors à la fois la montagne, un lieu accessible, on peut randonner, on peut se promener, mais il y a aussi quand même cette dimension mémorielle qui est importante. On est aussi confronté à la nécessité d'une histoire qui doit évoluer, et ça a été tout l'enjeu des phases de refonte du parcours muséographique. Mais ces expositions temporaires, elles ont aussi pour vocation de s'adresser aux locaux, aux habitants du massif, de ces Piedmont, aux Drômois, aux Isérois, pour leur dire, voilà, on réinvestit une nouvelle thématique, venez redécouvrir cette histoire qui est aussi la vôtre. Donc finalement, la fréquentation du musée de la Résistance, c'est un peu tout aujourd'hui. C'est à la fois ces scolaires qui montent dans un cadre bien défini, c'est aussi ces locaux hein, qui sont attachés à cette histoire, à ce massif, et c'est bien sûr des touristes, puisque le Vercors est quand même une destination touristique majeure, et les gens viennent dans le massif et profitent aussi de l'existence de ces musées pour découvrir, cette histoire qui a fondé la notoriété du Vercors, notamment à des fins touristiques.
Eh ben, merci beaucoup Pierre-Louis pour cette description et cette visite de cette nouvelle exposition temporaire dont on rappelle le titre, c'est Se relever, août 44, début 47. Une exposition donc à découvrir au musée départemental de la résistance du Vercors à Vassieux. Toutes les infos sont en ligne sur le site du musée, sur le site du département de la Drôme, et puis aussi dans les offices de tourisme locaux. C'était un extrait de la visite sonore de l'exposition temporaire « Se relever, Vercors, août 44, début 47 », à découvrir au musée départemental de la résistance du Vercors à Vassieux. Pour retrouver les autres épisodes, rendez-vous sur notre site internet radioroyon.fr.